Et rebonjour Brahma.
Bonjour.
Adi.
Le solide trio du Massif Central, Simon à la guitare, Paolo à la batterie et Baptiste à la vielle à roue. Ouais. Vous sortez prochainement votre premier EP, La Glane, déjà disponible en vinyle, en concert uniquement. Donc ce sera disponible demain soir à la release party, à la salle des lendemains qui chantent. Et vous venez de sortir le clip de votre titre, Mazoï. Messieurs, au risque de vous surprendre, ma première question est la suivante. Où avez-vous grandi ?
Alors moi, Simon, j'ai grandi à Montpellier, au bord de la mer, pas loin du moins, entre la garrigue et la mer. Voilà, pendant jusqu'à mes 20 ans.
Okay.
Après, j'ai déménagé, j'ai bougé un peu plus au nord, où il faisait moins chaud.
Plus dans le Massif Central, du coup ?
Non, en Irlande.
Ah oui, d'accord, donc carrément, loin, voilà.
Ouais,
carrément...
C'est ça, et après je suis revenu dans le Massif Central, ouais.
D'accord.
C'est moi, ma famille est du Massif Central, mais
okay.
J'ai grandi à Montpellier.
Baptiste ?
Alors moi, je suis du coin. Vraiment, je suis à 15 km d'ici.
Ok.
Et j'ai toujours été là. Et je crois que je vais, je crois que je vais continuer à rester là.
Et toi,
jusqu'au bout.
Et toi, Paolo ?
Et moi, j'ai grandi en Savoie, dans les Alpes.
Ok. Voilà. Qu'est-ce que ça fait de grandir ? Par exemple, toi, Baptiste, de grandir ici, ça fait quoi ?
Bah, ça fait comme tout le monde, je crois que t'es bien là où t'es, en fait.
Mm-hmm.
Et du coup, moi, j'ai grandi ici, je me sentais bien ici. J'ai essayé de bouger un peu ailleurs, bah, pas loin, hein, à Limoges. Et bah, voilà, bah, en fait, non, j'ai décidé de revenir, je me sentais mieux ici, en Corrèze.
Pourquoi je vous parle de là où vous avez grandi ? Parce qu'évidemment, ça fait partie aussi de ce qu'on met dans ce qu'on crée, dans ce qu'on produit, évidemment. Et en plus, vous avez quand même une particularité, c'est que vous faites quand même du rock psychédélique, mais à base de musique traditionnelle, au moins avec un instrument traditionnel. C'est ton cas, Baptiste.
Ouais.
Comment se fait ta rencontre avec la vielle à roue ? Et quand est-ce que tu as décidé, je me permets de vous tutoyer, de décider de dompter cet objet folklorique pour lui faire jouer de la musique psychédélique, en fait ?
Alors, ben, en fait, c'est venu assez tard, la vielle à roue. Avec un copain, on a commencé en seconde, je crois. Et avant, je faisais pas d'instrument de musique. Je faisais un peu de percu. Et du coup, on a commencé la vielle à roue ensemble. On en a fait, évidemment, 2 ans au conservatoire de musique,
oui.
On a fait la musique traditionnelle. Et ensuite, c'est venu assez naturellement. Enfin, quand t'es en seconde jusqu'en terminale, t'écoutes plus forcément du trad. Et du coup, je me suis mis juste à faire la musique que j'aimais écouter. Et voilà, moi j'ai une vielle à roue, je faisais du rock avec de la vielle à roue. Naturellement, je suis venu au rock rapidement, en fait. Juste, j'ai installé 2-3 pédales.
Tu l'as débridé ?
Voilà, je l'ai débridé, exactement. Ouais. Je fais un peu plus vite, mais la roue va plus vite. Non, mais en fait, c'est comme n'importe quel instrument. Tu branches 3 pédales et après, ça ressemble à une guitare, ça ressemble à une basse, ça ressemble à n'importe quel instrument quand tu le branches sur des pédales. En fait.
Toi, Paolo, parfois tu fais glisser un archer sur tes cymbales, sur le titre Rouille notamment. Elle vient d'où, cette attraction expérimentale ?
Et en fait, j'ai traîné avec pas mal de jazzeux. Et du coup, c'est là que j'ai pu voir ça. Et d'ailleurs, on peut remarquer qu'on l'entend pas sur l'enregistrement.
Comme beaucoup, c'est très jazz.
Donc j'ai aussi traîné avec beaucoup de théâtreux.
D'accord.
Donc c'est aussi joli à voir.
Tu veux dire que c'est plus un jeu que...
Ben, je me dis que...
C'est plus pour le spectacle.
Ben, que du coup, vu qu'on l'entend pas, je trouve que c'est joli aussi à regarder.
Alors, par contre, il y a quelque chose qu'on entend et qui peut paraître un peu perturbant. C'est un bruit de bourdon, un peu. J'ai lu que vous faisiez de la musique drone. C'est quoi exactement la musique drone ?
Ben, j'y vais, ouais. Ben, alors, là, on fait un peu musique drone parce que je crois que c'est l'instrument qui veut ça. La vielle à roue, c'est un instrument à son continu. Je tourne tout le temps la manivelle qui fait tourner la roue, qui fait vibrer les cordes, et du coup comme on s'arrête jamais, le son ne s'arrête pas, et j'imagine que les gens pensent qu'on fait la musique drone parce que j'ai un son continu tout le long du morceau, il y a rarement des pauses, quoi.
Donc,
je pense
c'est ça qu'on appelle la musique drone,
ouais. Un son continu,
ok,
je crois,
oui c'est ça, ouais.
Alors pendant plusieurs décennies, ici on est tous au courant, la musique traditionnelle était logée dans un univers assez folklorique, réservé à une population initiée. Et vous êtes aujourd'hui de plus en plus, quelques-uns et quelques-unes, à aller déplacer les codes de la musique trad pour vous les approprier, les réapproprier. Vous chantez d'ailleurs en occitan tous les trois. Quel est votre rapport à la transmission et à l'héritage ?
De l'occitan ou des musiques traditionnelles ou les deux?
Les deux, mon capitaine, j'ai envie de dire.
Ben, en fait, ouais, alors, le folklore, c'est vrai, évidemment, depuis le 19e siècle et tout, mais en fait, quand même, depuis les années 70, il y a eu un mouvement folk qui s'est... folk et non pas folklorique, mm-hmm. Qui s'est développé et qui était assez loin en fait des standards des musiques folkloriques et des groupes folkloriques qui étaient plutôt une genre de... qui muséifiait un peu ces musiques en créant des spectacles à partir des danses, etc., en faisant simplement de la représentation. Mm-hmm. Et il y a eu un mouvement de création qui s'est fait à partir d'une volonté assez politique, locale, altermondialiste, et notamment ici, assez, très proche d'ici, en fait, donc en termes, par exemple, de transmission et d'héritage, on a pas mal cet héritage-là, par exemple, de quelqu'un comme Olivier Durif, et le travail qu'il a fait... ici avec le CRMT, etc.
Est-ce que vous pouvez rappeler le travail d'Olivier?
Eh ben en fait, alors ils sont nombreux et nombreuses en fait à avoir fait ça, mais là en l'occurrence Olivier il habite à côté de chez nous, donc voilà, il y a une vraie transmission directe. Et ben en fait cette musique ils l'ont quelque part, moi j'ai envie de dire c'est fort, mais en fait ils l'ont presque créé cette mm-hmm. musique parce que il y avait des gens qui jouaient de la musique trad. Ici, enfin qui jouaient de la musique en fait, c'est nous qui avons appelé ça de la musique trad, mais ils jouaient de la musique chez eux. Et Olivier et d'autres sont alléchés chez eux parce qu'ils ont été fascinés en fait par la liberté qu'il y avait dans cette musique, et ils sont allés les collecter, mmh. ce qu'on dit dans le jargon en gros, ils sont allés les enregistrer, parler avec eux, et évidemment ils ont, moi je dis qu'ils quelque part ils l'ont inventé parce qu'en fait ils sont allés là et ils ont pris ce que eux avaient aimé. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas enregistrées, qu'ils ont pour, voilà, des... et puis il y a des choses que les gens chez qui ils allaient n'ont pas montrées, mm-hmm. etc. Donc en fait, ils ont façonné ce qu'on a aujourd'hui de cette musique, parce que pour beaucoup, ces gens sont morts. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Et voilà, et contre, par rapport à la muséification qu'ont pu faire des gens dans le folklore, eux, le but, ce n'était pas du tout d'archiver pour que ça s'enterre dans une armoire, mais pour qu'il y ait de la création. Et ils ont plutôt réussi, puisque aujourd'hui, en fait, si on peut parler d'héritage, nous, on provient aussi de ça, en fait, de ces choses qu'on a écoutées parce qu'ils ne les ont pas mis dans une armoire. Ils ont fait en sorte que des gens, ensuite, puissent faire quelque chose avec, créer, et surtout ne pas reproduire exactement la même chose, parce mm-hmm. que c'est assez drôle, parce que dans les musiques trad, on dit souvent que le trad, c'est une musique où on fait comme les gens faisaient avant. Non, c'est l'inverse, en fait. C'est vraiment une musique qui est en constante évolution. Mm-hmm. Et si on regarde le rock... Le rock est encore plus trad que le trad aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il y a un nombre incalculable de groupes qui font la même chose depuis 40 ans. Mm-hmm. Et donc, du coup, non, en fait, c'est une musique en constante évolution et c'est parfaitement trad. On dit souvent néo-trad parce que quelqu'un va mettre une machine, mm-hmm. faire de l'électro dans le trad. Non, en fait, c'est encore plus trad mm-hmm. parce que c'est une musique qui se crée tout le temps dans le mouvement, petit à petit, avec les codes de qu'il y a autour, quoi. Donc, avant, autour, il y avait un chant ou quoi. Maintenant, autour, il y a un chant et YouTube.
Mm-hmm. Et comment vous avez eu accès à ces... Enfin, comment est-ce que c'est venu cette idée de plonger dans ces archives sonores et de décider de construire à partir de ça? Parce que vous auriez pu les entendre et vous dire bon bah c'est chouette et puis voilà. À quel moment il est ce déclic de se dire en fait on va l'utiliser, on va en faire une énergie, on va en faire de la matière qu'on va se réapproprier. Et maintenant on va y aller quoi, on va jouer avec ça.
Bah un, ça nous a plu. Et puis deux, et puis même je le dirais dans l'inverse, deux, ça nous a plu, et un, c'est une volonté politique, en fait, mmh. aussi, en fait, de... moi, je sais, enfin, personnellement, et je pense que c'est le cas pour les trois autres, en fait, un truc qui est fort, justement, dans les musiques traditionnelles, et c'est ce qu'elles portent aussi politiquement, vis-à-vis du quotidien, de l'environnement, etc., et on s'y est intéressé... comme ça en fait, parce que moi pour ma part j'ai grandi vraiment dans la musique anglo-saxonne, mm-hmm. très voilà, internationale, etc., et enfin mondialisée plutôt, et en fait à un moment donné j'ai eu besoin d'avoir ce contact là, et en fait qu'elle soit bien ou pas bien, je m'étais dit en fait je vais m'intéresser à ces musiques là et c'est cool, elles sont super.
Et est-ce que par exemple vous chantez en occitan? Parce que dans les textes en occitan, c'est des textes que vous écrivez ou c'est des textes qui sont existants et que vous réappropriez parce que ça vous parle?
Eh bien, à l'origine, en fait, on s'était mis à lire Marcel Delpastre, mm-hmm. donc, qui est
la
ici.
Poète.
Mm. Ouais. Et puis finalement, en fait, on a commencé à écrire les textes, les co-écrire avec Dominique Descombes, avec mm-hmm. qui on apprend l'occitan petit à petit. Donc humblement, hein. On est loin de très loin de le parler, mais en tout cas, on passe pas mal de temps avec elle et on coécrit les textes avec elle. Voilà.
Parce que ça aussi, c'est très politique de chanter et de parler une langue qui n'est pas la langue universelle qu'on va parler en France. En fait, c'est assez politique aujourd'hui de se réapproprier ces langues qu'on a essayé de mettre au placard pendant des années, qui a été la langue de la honte à une époque.
Exactement.
C'est un geste politique aussi.
Ouais. Il était vraiment écrasé comme langue, en fait. Vraiment, moi, ma grand-mère parlait occitan et elle me racontait qu'elle était elle avait l'interdiction de parler occitan, c'est qu'elle était sa langue dans la cour, dans l'école, quoi.
Ah oui.
Donc ouais, c'est sûr. Alors nous, après, voilà, effectivement, comme le disait Paolo, on le parle pas, on l'apprend petit à petit, mais c'est sûr qu'il y a cette volonté qui a été évidemment politique et évidente. En fait, on s'est pas posé 15 000 questions quand on s'est dit on va chanter. C'était assez évident que ici on avait envie de le faire comme ça. Parce qu'en fait, l'occitan, c'est présent partout, dans les noms des bleds, les noms des lieux, les noms de famille des gens. Enfin, elle est présente partout, en fait, quand même, la langue.
Alors, vous avez commencé de le dire, vous êtes héritier de cette partie-là, en tout cas de la musique, du coup, traditionnelle. Mais vous êtes aussi héritier du mouvement rock, parce que vous faites quand même du rock psychédélique. Alors, vous êtes les héritiers de qui, de cet univers-là ?
Héritier, c'est un fort mot, je pense, mais dans le rock, voilà, il y a des groupes qui nous inspirent. Moi, c'est avec Paolo qui m'a fait découvrir quand même une de mes plus grosses claques de ces dernières années. Et ça, au début du groupe, c'est un groupe qui s'appelle D-Roof, qui est très hard rock, voilà, qui est quand même un groupe assez important. Puis après, voilà, plein d'autres choses dans les groupes d'aujourd'hui, The O.C.s, plein de choses qui nous inspirent. Et puis même des groupes de classic rock. Je sais pas si t'as des...
Paolo.
Ah, vas-y, Paolo. Ouais.
Ah non, c'est plutôt toi, non ?
Ouais, c'est toi.
Bah, Queen ou j'en sais rien. Ah, oui, parce que quand même des fans d'enfance, en fait, des choses qu'on a écoutées que toute notre enfance aussi. Voilà, quoi. Led Zeppelin, cool, c'est des trucs enfants, quoi.
Oui. Simon, toi, tu es le guitariste du groupe. tu tiens ta guitare très haut pour jouer.
Ouais.
Est-ce que ça doit peut-être nous rappeler quelques illustres guitaristes que tu admires ?
Alors non. Non, pas du tout. En vrai, je tiens ma guitare haute parce que c'est plus pratique et en fait moi je trouve que c'est plus simple et je dirais même plus que je pense que concrètement les gens qui la tiennent très très basse c'est un peu de la frime.
Non. D'accord.
Parce que en fait c'est quand même pas très agréable, techniquement on a quand même le bras très bas et on est loin, on a le poignet tout cassé, voilà. Simplement, quand on la tient haute, moi je trouve que je trouve ça plus simple en fait.
À vrai dire,
c'est plus confortable. C'est super. En fait, en vrai, non, quand j'étais ado, je la tenais plus basse, plus plat que ça. La vraie raison, et c'est qu'ensuite, j'ai fait beaucoup de guitare acoustique. Et donc, on joue assis principalement. Et en fait, j'ai pris l'habitude de cette position. Et quand je suis revenu à la guitare électrique, je ne l'avais pas touchée. Pendant plusieurs années, ma sangle était au même niveau que quand j'avais 16-17 ans. Et j'étais incapable de jouer, en fait. Et donc, j'ai remonté la sangle. Enfin, la vraie raison, c'est ça. Ouais. Mais, enfin, si, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est plus pratique à jouer.
Parce qu'il y a des guitaristes dans le groupe Yes, par exemple. Ouais. Le guitariste, il joue de la mandoline. Très haut, quoi.
Yes, qui est d'ailleurs un groupe dont je suis très, 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 très fan. Enfin, yes, c'est toute mon adolescence, quoi.
Alors là, j'ai aucun mérite, parce que c'est ma collègue Isabelle Vedrenne qui m'a tout glissé avant l'émission. Et d'ailleurs, c'est son groupe préféré, donc voilà, vous allez faire une heureuse. Donc voilà. Et ben,
c'est vrai, Steve Howe est le guitariste, si tu tenais, c'est voilà. Très haut, ouais.
Très haut, ouais, effectivement. Et c'est vrai que quand elle a vu ce clip, en tout cas, sur Rouille ou Mazeuil, tout de suite elle a dit mais c'est, en fait il tient vraiment sa guitare très haut.
Mais alors, moi j'ai pas la ref, pourtant je suis fan, mais il y a pas longtemps il y a quelqu'un qui m'a dit que le clip l'avait appelé un live de Yes, où effectivement c'était les tout débuts des effets comme ça là, un peu 3D, mais très très moche, quoi. Mais en fait c'est ça qui est beau finalement. Mais et apparemment ils ont fait un live comme ça, oui, c'est vraiment avec des espèces de trucs mal découpés et tout, parce que c'était les années 70, quoi.
Eh ben on va en reparler tout de suite, hein, parce que vous avez réutilisé ces codes dans le clip qui vient de sortir, donc je propose qu'on écoute votre titre et puis on se retrouve juste après pour continuer cette émission.
We'll be right back.
de retour en direct, superbe titre. Donc c'était Mazoï de vous, Brahma, qui est avec nous aujourd'hui. Donc vous êtes ici, il y a Isabelle qui nous a rejoint dans ce studio, parce qu'évidemment avec toute cette culture musicale, elle ne pouvait pas rester de l'autre côté de la vitre. Donc on est ici ensemble jusqu'à 13h30, on écoutait donc ce titre Mazoï. On invite les auditeurs et auditrices à aller visionner votre clip qui est sorti le 26 août, donc extrêmement fraîchement. Ce clip, il fait vraiment une multitude d'effets très particuliers, il convoque un univers esthétique et psychédélique, il est aussi très daté visuellement. Le traitement de l'image nous renvoie direct dans les années 70. Je n'étais pas née, vous non plus, me semble-t-il.
Moi aussi.
Messieurs, Isabelle et
Thierry. Désolée.
Alors, j'ai deux questions. Premièrement, vous jouez à quoi ? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous prenez comme produit ?
Alors, on joue à quoi, c'est-à-dire ?
Eh bien, en fait, quand je regarde ce clip, je me dis, à quoi il joue ? À quoi il joue ? Mais réellement, c'est pas une question péjorative, c'est pas à quoi il joue, c'est pas méchant, vraiment à quoi vous jouez,
c'est
dans quel univers
clip,
vous plongez quoi.
Ouais. Ah ouais, d'accord.
J'ai l'impression
d'accord.
de voir un clip de Yes en 73. Quoi. Ouais. Donc déjà, est-ce que c'est volontaire parce qu'il y a...
Alors, volontaire, je sais pas, si, enfin, en tout cas, c'était pas référencé spécifiquement, mais en tout cas, c'est sûr qu'on voulait faire un clip psychédélique. Mm-hmm. On avait envie que ça lorgne un peu avec quelque chose, enfin, un peu kitsch et très coloré, parce que voilà, ça nous plaisait. Et je pense que ça c'est réussi, on a, voilà. Mais après il y avait l'idée en fait de, comme nous voilà, on est basé en Corrèze, on travaille avec, on l'a pas dit encore mais c'est important, on fait partie du collectif Lost in Tradition, mm-hmm. qui est basé à Chambolive ici en Corrèze. Et en fait il y a quelque chose d'important en fait dans le travail à la fois du collectif ensemble, mais aussi les groupes San Salvador ou Brahma, c'est vraiment de travailler avec les éléments du quotidien. Mm-hmm. Et en fait le délire du clip c'était quand même principalement ça, c'était de faire un clip psychédélique mais avec les moyens du bord, de le faire nous. Et donc il n'y a pas comme avant dans les années 70 c'était avec des espèces de produits qui filmaient machin, aujourd'hui c'est tout en 3D sur ordinateur. Nous ce qu'on a fait c'est qu'on a mis un fond vert dans une salle des fêtes, et ensuite on a fait des fonds psychédéliques en filmant que des trucs autour de chez nous. Donc tout ce qu'on voit derrière en fait c'est des ruisseaux, des plantes, il y a la route, il y a le vent dans les arbres machin, qu'on a ensuite retravaillé.
Et qu'est-ce voilà, qu'elle raconte,
tout a été fait comme ça.
Qu'est-ce qu'il raconte ce titre ?
Mazoï, c'est il y a pas beaucoup de, les paroles sont très courtes, ouais. Et c'est, on peut dire c'est comme un genre de haïku en fait, mm-hmm. Et c'est sur le fait de dire que le temps qui passe est malgré nous quoi, et mm-hmm. que comment dire, ça démarre en fait avec une image de la maison en fait, et que quand on arrive dans la maison elle appartient déjà à des gens qui étaient là avant en fait, et qu'on vit avec ça, hein, et qu'ensuite on la laisse, etc. Et pour parler de tout ce qu'on veut en fait, que ce soit la vie, la terre, etc. machin, mais...
Donc il y a une notion de répétition un petit peu finalement, est-ce qu'on peut dire que ça rappellerait les mantras indiens par exemple, comme Brahma déjà il fait penser, même si c'est peut-être pas une référence consciente, mais est-ce que les répétitions, est-ce que ça ferait écho aussi à...
Je sais pas, j'ai pas spécialement pensé à ça. Les haïkus, c'est sûr, mais après, la répétition, en tout cas dans la transmission, c'est sûr, parce que c'est voilà. de ça dont ça parle, en tout cas, la chanson.
Après, il y a une question aussi vachement de mise en abîme, parce que vous parlez de quelque chose qui est intemporel et vous utilisez des codes des années 70. Donc c'est quelque chose qui avance, le temps qui passe et tout, et vous utilisez des codes qui sont dépassés en fait. Donc il y a un truc vachement en plus il y a l'horloge qui tourne tout le temps, donc
c'est post-moderne quoi.
Ouais. Donc votre EP, ce titre sera évidemment sur votre EP qui sort très prochainement, là, début octobre. Il est déjà disponible en vinyle. D'ailleurs, vous pourrez vous procurer en concert, donc possiblement demain soir, j'imagine, parce que vous êtes à la salle Des Lendemains qui chantent. Comment vous l'avez construit cette EP ? Déjà, il s'appelle La Glane. Qu'est-ce que ça veut dire La Glane ? Pourquoi ce titre ?
La Glane, c'est le verbe glaner.
Ouais.
Ça veut rien dire La Glane. Enfin, c'est un.
Enfin, c'est inventé. C'est une petite rivière.
Oui, c'est une petite rivière, effectivement, mais.
Ouais, je connais par rapport au. Glane, mais je pense pas qu'il y ait des références.
J'espère que la référence n'est pas là, non.
Le verbe glaner, il est quand même très très fort, quoi. C'est vraiment c'est le fait de récupérer les résidus de la production, quoi. Les choses que les gens ne veulent pas, et voilà. Et.
C'est la collecte.
Ouais. Mais j'avais vu le film là, d'Agnès Varda, la glaneuse et les glaneurs, qui m'avait beaucoup beaucoup marqué. Il y avait ce mot qui tournait un peu dans la tête à un moment où la glane, c'est un long morceau en fait à la fin du disque, qu'on a écrit tous les trois, qui est assez long avec plein de parties tout ça. et avec plein de parties qu'on a collées. C'était un des premiers trucs qu'on a écrit, d'ailleurs, vu qu'on a viré le reste, c'est possiblement maintenant le premier qu'on a écrit. Mmh. Et du coup, en fait, ouais, y a ce mot qui est venu, quoi, la glane, et puis c'est pour le nom de l'EP aussi.
C'est super intéressant parce que je voulais venir avec vous à votre manière de créer, en fait. Et quand tu parles d'assemblage comme ça, c'est vrai que c'est une question aussi. Comment est-ce que vous créez vos morceaux? Est-ce que vous êtes plutôt dans une sorte de patchwork? Est-ce que vous êtes dans une évolution permanente? À un moment, vous dites, tiens, ça marche, on le refait. Est-ce que vous êtes tout le temps en train de rajouter des choses? Est-ce que, comment vous créez tous les trois?
Tout ce que tu as dit à la fois, je pense.
Ouais. Non, mais il y a un peu de tout, hein. Enfin,
ça dépend des morceaux.
Ouais, et des envies. Parce qu'en fait, on vient quand même de chacun de musiques différentes. Mm-hmm. Moi, ça reste quand même la musique traditionnelle, les deux un peu plus rock, un peu plus musique d'Amérique du Sud, je me permets de dire ça. Et non, mais on compose à chaque fois différemment. Des fois, c'est Simon qui amène un petit bout de truc, et paf, on va le bosser ensemble, et chacun essaie d'y mettre sa patte. Mmh. Des fois, c'est Paulo qui amène tout un morceau, ou Simon tout un morceau, et on compose avec. Et on a expérimenté, c'est un peu plus compliqué, mais le fait d'essayer de composer en buffant, machin, toute une soirée, tout un week-end. Il y a un morceau qu'on a gardé comme ça, d'ailleurs. Ouais. On a composé une après-midi.
Une performance, quoi.
Ouais. En fait, ça sert pas mal, surtout à... Quand on fait ça, en général, ça donne pas forcément des morceaux entiers, mais voilà. Ça donne... une idée sur laquelle on se dit putain ça sonne à trois, maintenant on va le transformer, on va raconter quelque chose. C'est souvent ça le plus difficile, en fait, c'est raconter vraiment quelque chose dans un morceau à partir d'un buff où c'est un instant T, voilà, et après le construire pour voilà. Mm-hmm. Les deux sont hyper importants, en fait.
Est-ce que vous avez des rituels pour créer autre que prendre de la drogue,
ouais,
par
exemple?
Non,
c'est pas le cas. Bah, on se retrouve souvent...
On a chacun nos trucs, je pense.
Oui, c'est...
C'est assez différent. Moi, je mange pas.
D'accord.
Moi, j'aime bien pas manger.
Mm-hmm. Voilà, ça te met dans un état de transe un peu.
C'est le matin tout le temps, quoi. Mm-hmm. Toute la journée.
À jeun.
Et après, des heures de boulot.
Ok. Non, c'est intéressant, cette question, parce que... Enfin, c'est intéressant, cette question, c'est facile à dire, c'est moi qui la pose, mais je veux dire, parce que ça explique aussi, des fois, le contexte dans lequel on a besoin de se mettre aussi. Et en plus, vous faites une musique... Je trouve aussi que cette musique traditionnelle, elle appelle aussi la transe, en fait. Elle fait vibrer, il y a quelque chose qui vient à l'unisson, un peu, qui fait bouger les corps et qui fait aller chercher quelque chose en soi profondément. Donc la question de l'état dans lequel on se met pour créer, pour moi, c'est un sujet qui peut être intéressant. Il y en a un qui mange pas et...
Non, mais c'est plutôt des choses qui viennent aussi, et c'est au quotidien, et c'est des notes qu'on prend... en tout cas, ouais. Moi, ça me vient comme ça. Mm-hmm. Et après, des idées de mélodie. Et puis, oui, c'est vrai que des fois, à la sortie d'une résidence, dans les derniers moments, il y a une mélodie qui arrive. Okay. Et là, tac, on fait un truc vite fait. Et en fait, ce sera le début d'un morceau la fois d'après.
Ouais, ça arrive plusieurs fois. C'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, je suis assez d'accord avec Paulo. En fait, c'est vraiment des trucs qu'on attend aussi, des fois, où t'es une idée parce qu'on écoute... beaucoup de musique, enfin, c'est difficile de se dire allez demain j'écris un truc, mais pour le faire il faut se mettre en condition, effectivement, et écouter plein de musique, puis après ne plus en écouter du tout. Moi, je trouve que c'est bien pendant un moment, paf, puis après esprit clair, tu reviens avec les charges et tout ça, et puis après ça dépend vraiment des moments. Mais
est-ce qu'il y a des œuvres ou des albums ou des groupes tout simplement qui vous ont directement influencé sur les morceaux que vous avez sortis récemment, par exemple?
Directement?
Ouais, parce que quand on écoute Roula, par exemple, on peut entendre plein de choses. Ouais. Alors, je sais que ça peut déranger de toujours la question qui vous influence, tout ça, mais c'est vrai qu'à la première écoute, on pense forcément à des tas de choses. Moi, je peux entendre Magma, je peux entendre Gong, je peux entendre Yes. Ouais. Et je me dis à quel point ça peut être conscient ou pas de votre part.
Eh bien, il y a des... Alors, conscient... non, je pense pas sur les morceaux particulièrement. Je sais que je le disais tout à l'heure, mais effectivement, Dirouf est un groupe qu'on a beaucoup écouté avec Paolo, et parce qu'il m'a fait découvrir ça au début du groupe. Donc, par exemple, ok, ça pourrait dire qu'il y a une influence directe, parce que vraiment, on écoutait ça et on en parlait souvent, leurs arrangements, leurs breaks, etc. Après, un autre truc aussi, c'est des fois se mettre en condition avant les concerts. Et on faisait aussi ça dans le camion, on écoutait Nusrat Fateh Ali Khan, qui est un chanteur de Qawwali. Ouais. Et pareil, ça c'est vraiment un truc qu'on écoutait parce qu'on est super fan de ça. Ouais. Et on écoutait ça vraiment avant d'aller en concert, en boucle, tac, pour se mettre dedans. Ouais, influence directe. Après, pas tant, je pense, non. Vraiment, je pense qu'on est quand même des gens qui écoutent beaucoup de musique, plein de trucs.
C'est quoi qui tourne en ce moment sur vos platines? Il vous reste 30 secondes.
Alors, je ne sais pas si c'est représentatif, mais souvenir de Bretagne, que j'ai acheté à Carnix.
Okay. Yes, Carnix, la ressource
originale. Mais ce n'est pas forcément représentatif de ce que j'écoute.
Mais j'ai aimé
le disque.
Moi, okay. J'ai le disque d'un groupe qu'on a acheté, là, il n'y a pas longtemps, qu'on a vu en concert, qui s'appelle Gustave, okay. Qui est un groupe un peu post-rock. J'ai acheté leur vinyle après avoir pris une belle claque en concert, et okay. Voilà, moi, ça tourne à fond chez moi, là.
Ouais, moi j'écoute le seul CD qui est resté bloqué dans ma caisse, je peux pas retirer, et c'est Casse-Brique. C'est un groupe un peu post-punk, rock, et que j'ai écouté quand j'avais 18 ans. Et du coup ça fait 10 ans que j'écoute le même CD.
Mais donc. Ça fait 10 ans que le CD ouais. est coincé ou
non, bah, il a été, mais si, il a été bloqué dans la première bagnole, et là il est bloqué dans la seconde.
Ah c'est un signe. Ouais, ouais.
En tout cas, on pourra vous écouter et vous bloquer dans la voiture et bloquer votre vinyle sur la platine et vous voir surtout en concert demain soir à la salle des Lendemains qui chantent. Je rappelle que votre EP sort très prochainement.
Le 30 septembre,
voilà, j'avais pas la date. Ça y est, c'est sorti. On le sait, dès le 30 septembre, vous pourrez donc bloquer le CD dans votre voiture. Il y a le vinyle qui est dispo, qu'on pourra acheter dès demain directement sur place pendant le concert. Merci, un immense merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur l'antenne de Bram FM. Brama, ça sonne bien, ça marche bien. Merci à vous trois d'avoir été là. Merci à toi, Isa, de nous avoir rejoints dans le studio.
C'est un plaisir.